On a coutume de dire « les paroles passent, mais les écrits restent ». Il est vrai que la plupart des gens oublient ce que vous n'auriez pas dû dire, et heureusement. Par contre, ce qui est couché sur le papier est toujours là pour raviver un souvenir, qu'il soit bon ou mauvais. Le prophète Jérémie annonce les oracles de l'Éternel, mais peu l'écoutent. Finalement, c'est Nabucodonosor qui lève le ton en attaquant Jérusalem et en déportant l'élite de la nation en 597 avant Jésus-Christ. Nous sommes au début du règne de Sédécias qui a remplacé son frère Joachim, exilé à Babylone. Le chapitre 29 décrit la situation nouvelle où se trouve le peuple d'Israël à la suite de cette tragédie. Ceux qui sont restés au pays se croient mieux lotis que les exilés. Mais ils se bercent d'illusions en pensant que leur âge est passé. Quant aux déportés, ils s'attendent à retourner rapidement au pays suite à la chute prochaine de Babylone. Mais eux aussi font grandement erreur. Encouragés par leur présomption, par les nombreux faux prophètes qui vivent parmi eux. N'ayant pas été entendus, Jérémie est obligé d'écrire la révélation de Dieu noir sur blanc à ses compatriotes exilés comme à ceux qui se trouvent encore sur le sol de la patrie. Je commence à lire le chapitre 29. Voici le contenu de la lettre envoyée de Jérusalem par le prophète Jérémie à ceux des responsables du peuple qui subsistaient en exil, ainsi qu'aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple que Nabucodonosor avait déporté de Jérusalem à Babylone. La lettre fut envoyée après le départ du roi Yéconia, de la reine-mère, des fonctionnaires du palais royal, des ministres de Juda et de Jérusalem, des artisans et des forgerons par l'intermédiaire d'Éléasa, fils de Chaphan, et de Gemaria, fils de Hilkia, que Sédécias, roi de Juda, avait envoyé à Babylone à Nabucodonosor, roi de Babylone. Tous ces noms difficiles à prononcer sont importants dans l'histoire de Jérémie. Le roi Yéconia, Joachim, est en exil. Éléasa, l'un des porteurs de la lettre, est le frère d'Aïkam, qui, dans le récit précédent, est intervenu en faveur de Jérémie lorsque le peuple voulait le lyncher. Cette intervention a donné le temps aux magistrats avertis du tumulte de se rendre sur place afin de rendre une justice équitable. Le prophète entretient des relations très amicales avec la famille haut placée de Aïkam. Gemaria, le second porteur de la lettre, est un autre défenseur de Jérémie et peut-être même son frère. Ces deux hommes occupent des postes importants dans l'administration de Sédécias et sont envoyés à Babylone pour une mission diplomatique. Jérémie profite de cette aubaine et de leur soutien pour faire parvenir aux exilés la révélation qu'il a reçue de l'Éternel. Je continue. La lettre disait « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. Construisez-vous des maisons et installez-vous-y, plantez des jardins et mangez-en les fruits, mariez-vous et ayez des enfants, mariez vos fils et donnez vos filles en mariage et qu'elles aient des enfants. » Multipliez-vous là-bas et ne laissez pas diminuer votre nombre. Jérémie envoie cette lettre parce qu'il a appris que les exilés refusent de s'installer pour de bon en terre étrangère à cause des fautes prophètes qui leur prédisent un retour au pays imminent. Ne voulant pas que les exilés se laissent gagner par un optimiste béat non fondé, Jérémie les rappelle à l'ordre fermement de la part de l'Éternel. Car ils vont rester 70 ans à Babylone, aucun adulte ne reviendra en terre d'Israël. Au terme de l'exil, il faudra au contraire arracher leurs descendants de leur nouvelle patrie, tellement ils sont prospères, afin de les ramener dans leur pays, où doit s'accomplir leur véritable destinée de peuple de Dieu. Je continue. Recherchez la prospérité de la ville d'où je vous ai déporté, et priez l'Éternel en sa faveur, car de sa prospérité dépend la vôtre. Les colons, malgré eux, doivent non seulement prendre racine à Babylone, mais aussi devenir des citoyens modèles. Les habitants d'un même sol sont trop solidaires entre eux pour que le malheur de l'un puisse faire le bonheur des autres. De plus, c'est le devoir des croyants d'appeler la bénédiction de Dieu sur la société dans laquelle il vit. C'est aussi l'avis de l'apôtre Paul qui, dans sa première épître à Timothée, écrit « Je recommande qu'on leur prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener, à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime, dans tous ses aspects, notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve. » Je continue le texte plus loin. « Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » L'Éternel a des projets de paix pour son peuple et lui prépare un bel avenir. Mais ses voies sont différentes de celles imaginées par les faux prophètes. Il faudra d'abord une transformation intérieure radicale des Israélites et attendre la fin des 70 années d'exil. Vouloir anticiper impatiemment les temps et le moment que Dieu a choisi, c'est s'exposer à bien des difficultés. Je continue. « Alors vous m'invoquerez, et vous viendrez m'adresser vos prières, et je vous exaucerai. Vous tournerez vers moi, et vous me trouverez lorsque vous vous tournez vers moi de tout votre cœur. » Le plus grand privilège du peuple sera d'invoquer et de prier l'Éternel. La prière est une grâce accordée aux croyants, ainsi que le moyen d'obtenir les grâces divines. On voit ici que la volonté de Dieu est que, par la prière, son peuple prenne une part active à la réalisation de ses projets. C'est à méditer. Je continue. « Je me laisserai trouver par vous. L'Éternel le déclare. Je ferai revenir les exilés de votre peuple et je vous rassemblerai du milieu de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai dispersés. L'Éternel le déclare pour vous ramener dans le pays d'où je vous ai déporté. » Cette prophétie s'est accomplie à l'époque d'Esdras et de Néhémie. Elle le sera dans une plus grande mesure encore après la seconde venue du Messie. Je continue plus loin. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, au sujet d'Akab, fils de Yoïa et de Sédécias, fils de Maaseïa, qui vous prophétise des mensonges en mon nom. Je vais les livrer à Nabucodonosor, roi de Babylone, qui les fera périr sous vos yeux. Ces deux hommes sont des faux prophètes qui trompent les colons. Ils sont coupables de mentir au nom de l'Éternel et d'adultère à répétition, un vice classique chez les faux prophètes. Ils suscitent aussi la colère de Nabucodonosor qui les fait brûler vifs dans une fournaise ardente. Je continue plus loin et finis de lire le chapitre 29. L'Éternel adressa la parole à Jérémie. « Envoie ce message à tous les exilés. Voici ce que déclare l'Éternel au sujet de Shemaïa de Néhilam. Shemaïa vous a prophétisé sans que je l'aie mandaté, et il vous a fait croire des mensonges. Eh bien, voici ce que déclare l'Éternel. Je vais sévir contre Shemaïa de Néhilam et ses descendants. Aucun des siens ne subsistera au milieu de ce peuple, et il ne jouira pas du bonheur que je vais accorder à mon peuple, l'Éternel le déclare, car il a prêché la rébellion contre l'Éternel. » Dieu prononce des jugements sur les faux prophètes les plus vicieux. Par le prophète Jérémie, il a déjà expliqué aux Israélites en long et en large et en travers pourquoi ils sont conquis par Babylone et déportés. L'Éternel condamne toujours toute forme de péché, quelle que soit l'époque où il est commis. On aimerait croire que le Dieu du Nouveau Testament est différent de celui de l'Ancien, mais c'est le même. Il n'a pas changé d'un iota. Il n'a pas vieilli et n'a rien appris de nouveau. Il est le Dieu éternel qui fait sentir sa présence dans l'histoire humaine par ses interventions qu'on remarque surtout dans la nation d'Israël. Mais il parle au travers de la nature et surtout par les textes sacrés. Dans sa seconde épître, l'apôtre Pierre écrit « Nous avons la parole des prophètes sur laquelle nous pouvons nous appuyer fermement. Et vous faites bien de lui accorder votre attention, car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer vos cœurs. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce passage mentionne l'origine de la parole des prophètes. Pierre dit « Sachez avant tout ». Il faut savoir que les Écritures ne proviennent pas de l'homme, mais de Dieu. En effet, si cette personne de génie ou un imposteur qui a écrit ces textes, ils peuvent avoir une valeur littéraire et philosophique, mais c'est tout. En réalité, les prophètes qui annoncent la parole de l'Éternel et qui l'ont couché sur le parchemin ne nous ont pas fait part de leur observation brillante. Ils ont simplement rapporté fidèlement ce que Dieu leur a dit. Quand on étudie sérieusement les Écritures, il faut mettre de côté sa façon de penser, ses préférences et ses opinions personnelles afin de s'ouvrir à l'action du Saint-Esprit. C'est ce que n'ont pas fait les faux prophètes, les prêtres et le pouvoir politique de Judas. Mais nous sommes tous aussi coupables qu'eux, car chacun d'entre eux voit midi à sa porte, possède sa propre manière de voir le monde, qu'il croit la bonne. Et on se balade avec sa grande banderole de protestation et sa pancarte de revendication. On pense avoir tout compris, alors qu'en réalité, on sait très peu de choses. Dieu seul possède la connaissance universelle totale. Il a toutes les informations nécessaires et rien ne lui échappe, car il voit derrière les murs et dans les cœurs. À chaque instant, il connaît la masse exacte du plancton végétal qui se trouve en suspension dans toutes les mers du globe, ainsi que le nombre précis des protozoaires qui flottent. Le benthos insignifiant traîne au fond de l'océan dans les ténèbres les plus complètes, mais il vit grâce à la puissance de son Créateur. Il est donc insensé que certains puissent se permettre de juger Dieu. Le petit homme minable dit « Seigneur, j'ai du mal à croire que tu existes parce que j'ai une capacité intellectuelle énorme qui me dit que tu n'es peut-être qu'une illusion. Cependant, si tu es quelque part là-haut, je veux te dire que tu as tort. Quelle arrogance ! Au printemps, nous avons toujours des fourmis qui nous envahissent. Si l'une d'entre elles venait s'asseoir dans mon fauteuil et me dire « Écoute, je n'aime pas la façon dont tu as construit cette maison, ni ton jardin, ni ton choix d'arbustes, ni ce que tu manges. Savez-vous ce que je ferais à cette fourmi ?» Nonobstant le fait qu'elle me rapporterait beaucoup d'argent dans un cirque ou à la télé, eh bien, d'un coup de chiquenaude, je l'enverrais balader et je lui ferais sentir la semelle de ma pantoufle. Heureusement pour nous, Dieu est miséricordieux. Il nous donne sans cesse une seconde chance. Nous arrivons au chapitre 30 qui, avec les trois suivants, forme un tout et représente le point d'orgue des prophéties de Jérémie. C'est alors la plus sombre de l'histoire d'Israël que l'horizon le plus lumineux apparaît au regard prophétique. Pour Judas, l'espérance d'un avenir glorieux contrebalance les humiliations et les angoisses du présent. La vision messianique, qui a surgi ici et là au milieu des reproches et de menaces de jugement, est réunie et développée sous sa forme la plus complète dans les chapitres 30 à 33. On les a même appelés le chant suprême de la délivrance d'Israël. Ces chapitres ont été composés dans les dernières années du règne de Sédécias et donc pendant la période la plus tragique de l'histoire du royaume de Juda. je commence à lire le chapitre 30. Message que l'Éternel communiqua à Jérémie. Voici ce que déclare l'Éternel, Dieu d'Israël. Consigne par écrit dans un livre tout ce que je t'ai dit. Ces promesses, au lieu d'être prononcées en public, doivent être mises par écrit parce qu'elles se rapportent à une époque encore lointaine et doivent servir à l'édification et à la consolation des générations futures. Je continue. Car voici le temps vient, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple Israël et Juda. C'est l'Éternel qui le déclare. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leurs ancêtres et ils le posséderont. Je ramènerai les captifs. Résume en quelques mots les promesses formulées dans les chapitres 30 à 33. Cette prophétie aura son accomplissement à moyen terme, qui est le retour des Israélites de Babylone dans leur pays à l'époque de Zorobabel, Esdras et Néhémie. Cependant, Jérémie prophétise également la fin de la grande diaspora et le rassemblement des Juifs dans leur pays d'origine qui aura lieu à la fin des temps. Je continue en compressant. Voici ce que l'Éternel a dit au sujet d'Israël et de Juda. Nous avons entendu des cris d'effroi. C'est l'épouvante et non la paix. Malheur, quel jour terrible! Il n'y a pas d'autre semblable à celui-là. C'est un temps de détresse pour les descendants de Jacob, mais ils en seront délivrés. Ce temps de détresse sans précédent correspond à la première partie du jour de l'Éternel à la fin des temps, qui précédera immédiatement le retour du Christ. Avant d'annoncer la délivrance, Jérémie rappelle qu'elle sera précédée d'un jugement terrible, car le peuple passera par la nuit de la grande tribulation avant de voir la lumière d'une ère nouvelle. Je continue. Voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. En ce temps-là, je brigerai le joug pesant sur leurs épaules, j'arracherai leurs liens et ils seront plus esclaves d'étrangers. Ils seront serviteurs de l'Éternel leur Dieu et de David leur roi que je leur donnerai. Ce roi est le Messie, Jésus-Christ. Il porte le nom de David comme titre dynastique, un peu comme Pharaon chez les Égyptiens ou César chez les empereurs romains. Je continue. « Et toi, Jacob, mon serviteur, sois donc sans crainte, déclare l'Éternel. Non, n'aie pas peur, ô Israël, oui, car je vais te délivrer de la terre lointaine, toi et tes descendants du pays de l'exil. Car Jacob reviendra, il jouira de la tranquillité et d'une vie paisible. Personne ne l'inquiétera, car je suis avec toi, l'Éternel le déclare, et je te sauverai. Je ferai table rase de toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais je ne ferai pas table rase sur toi. Cependant, je te châtirai selon ce qui est juste. Je ne te laisserai certainement pas impuni. L'Éternel détruira les nations, mais ne fait que punir Israël, qui, en tant que peuple, subsistera jusqu'à l'avènement du Messie. Juste avant son retour, tous les descendants d'Abraham qui auront survécu à la grande tribulation retourneront dans leur pays et entreront dans le millénium. Je continue plus loin. Tous tes amants, Jérusalem, t'ont oublié. Ils ne se soucient pas de toi, car je t'ai accablé de coups, comme ferait un ennemi. Je t'ai cruellement châtié, car ton crime est énorme et tes fautes nombreuses. Pourquoi te plains-tu donc de ta blessure, de ce que ta douleur est si aiguë? Je te l'ai infligé pour tes crimes énormes et tes fautes nombreuses. Tous les anciens alliés de Juda l'ont lâché. Les Israélites subissent le châtiment divin aux mains des nations païennes, à commencer par Babylone. Mais il y en aura beaucoup d'autres, comme la Grèce, Rome et même l'Angleterre. Et à la fin des temps, le monde entier persécutera les Juifs. Cependant, l'Éternel, le peuple élu, n'a aucune raison de se plaindre parce qu'il est responsable des maux qui lui arrivent. Je continue plus loin. Voici ce que déclare l'Éternel. Moi, je vais restaurer les habitations de Jacob. J'aurai pitié de toutes ses demeures. La ville sera rebâtie sur les décombres. Le palais sera restauré sur son emplacement. Du milieu d'eux s'élèveront des accents de reconnaissance, le bruit de gens en fête. Je les multiplierai, leur nombre ne décroîtra plus. Je les honorerai, ils ne seront plus méprisés. Ces promesses frémissent d'allégresse comme l'éclatement du printemps après un rude hiver. Elles se réaliseront à la fin des temps pendant le règne du Christ, le nouveau David, dans son royaume de 1000 ans. Je continue plus loin. Leur chef sera l'un d'eux. Leur souverain sortira de leur rang. Je le ferai venir et il s'approchera de moi. Autrement, qui aurait l'audace de s'approcher de moi, demande l'Éternel. Vous, vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Outre ses fonctions de roi et chef d'État, le Messie assumera aussi une fonction sacerdotale qui lui donnera accès auprès de l'Éternel devant qui il représentera le peuple. Je finis de lire le chapitre 30. Voici que la tempête de l'Éternel se lève, sa fureur se déchaîne, l'orage tourbillonne, il s'abat sur la tête de tous ceux qui font le mal. La colère de l'Éternel ne se calmera pas avant qu'il ait agi et qu'il ait accompli les desseins de son cœur. Dans les jours à venir, vous vous en rendrez compte. Ce refrain menaçant est destiné à Juda dans son présent. Il a pour but de prévenir toute illusion en rappelant que la délivrance sera précédée d'un triage purificateur et que le châtiment qui lui infligera Babylone est imminent. Comme je le dis souvent, nul n'échappe au châtiment divin à moins de chercher refuge et le pardon en Jésus-Christ.